Bonjour. Une fois n'est pas coutume, je veux vous parler d'un événement qui se prépare. Le 23 juin prochain, à la Bellevilloise, à Paris, se tiendra la première journée Women Do Wine. Vous savez, ces féministes qui mettent en avant les femmes du vin. Toutes les femmes du vin, et elles sont nombreuses, vigneronnes, cavistes, sommelières, critiques, journalistes, blogueuses, communicantes. Elles sont bien entendu sous-représentées médiatiquement, mais elles sont bien là. Et d'ailleurs, profitons-en pour faire notre propre autocritique. Combien de femmes dans la terre à boire? Heureusement, Florence Saragoni est là pour compenser le nombre de chroniqueurs mâles réguliers de l'émission. Et du côté des invités, citons, oui, Laureline Laborde, vigneronne en Jura, Marie Curté en Savoie, Maëlys Ray, blogueuse corse, Daniel Géraud, agent et dénicheuse de pépites, Justine Saint-Lô et Fleur Godard, bien sûr, les autrices de Pur Jus. Mais soyons honnêtes, sur bientôt 50 épisodes, nous sommes encore bien loin de la parité, on y travaille. Alors, rendez-vous toutes et tous, hommes, femmes, amateurs de vin, néophytes, passants, amis, familles, voisins, podcasteurs, auditeurs et auditrices, pour les soutenir, les voir et les écouter, ces femmes du vin. Au programme de la journée du 23 juin, des rencontres, des débats, des dégustations, bien sûr, ou, comme on dit dans le milieu, des masterclass. Sans oublier une remise des prix déjà très attendue. Et pour commencer, rendez-vous tout de suite sur ulule.com à la page Rencontre Women Do Wine pour réserver votre place à prix réduit. Si vous faites un don en plus, vous grattez même des contreparties. Nous, on y sera, c'est sûr, et on sera ravis de vous y rencontrer. Ce 47e épisode s'intitule Rhône Nord is Coming. Bienvenue dans la Terre à Boire. Et nous voilà donc pour une nouvelle région, de retour en studio avec l'équipe large et au complet. Commençons par les filles. Florence Saragoni, bonjour.
Bonjour.
Laurent Delceau, notre ami caviste.
Bonjour.
Oui, Florence, elle est sommelière et caviste. Elle cumule. On a notre ami Patrice Defay qui est toujours là.
Bonsoir. Voilà. Je crois qu'après moi, on aura fini avec les filles.
En effet, on a un invité qui n'est pas qu'un invité là, il est chroniqueur et on est tellement ravis de l'avoir. Il est déjà passé mais il y a longtemps, c'est Bertrand, bonjour Bertrand.
Salut.
Cette belle voix du podcast La Grosse Bouffe.
Un podcast qu'il est bien à écouter.
Voilà, il passe toujours son petit claim comme ça. On est là réunis pour s'attaquer à une super région. Rappelez-vous, on avait commencé ce podcast avec le Rhône Sud et en disant « Attention Rhône Sud, c'est Rhône Sud et c'est pas Rhône Nord, c'est pas pareil ». Ben voilà, il est venu le moment de parler du Rhône Nord, une région, on peut dire déjà très différente de Rhône Sud, avec ses particularités. Et Patrice, tu vas nous dire tout de suite de quoi il s'agit quand on parle de Rhône Nord.
Alors, le Rhône Nord à peu près, bon, allez, quelques chiffres comme ça, on aura...
Au-dessus de Valence, j'aime bien.
Alors, au-dessus de Valence, alors pas tout à fait. Normalement, oui, la vision des 8 AOC classiques, c'est au-dessus de Valence. Mais là, on va adresser quelque chose qui est, je crois, pas très loin. Enfin, au-dessous de Valence et entre Valence et Montélimar, tout à l'heure, dans une prochaine émission. Donc, 8 appellations, 4 cépages. Un cépage dominant, quand même, en rouge, c'est la Syrah. Enfin, c'est le cépage exclusif rouge et... c'est à peu près, je pense, 75% des vins du Rhône Nord qui sont en rouge. 8 appellations, donc assez prestigieuses.
Oh, y a des noms connus quand même, ça ronfle le Rhône Nord.
Condrieu, Château Grillet,
Côte-Rôtie.
Hermitage, Côte-Rôtie, Croz-Hermitage, Saint-Joseph, Saint-Péret. Qu'est-ce que j'ai oublié? Je crois que j'en ai pas. Ah, si, j'ai oublié Cornas. Voilà, donc c'est toutes ces belles appellations et avec une caractéristique, c'est qu'on est. Des deux côtés du Rhône, essentiellement quand même sur la rive droite, qu'on est globalement sur des collines assez abruptes, puisqu'on est sur les bords extrêmes à l'est du Massif central, avec, on en parlera peut-être, mais l'Hermitage qui est le seul bout de caillou granitique qui est de l'autre côté du Rhône, puisque à l'Hermitage, Thun et Croz, on est rive ouest, rive sud, enfin rive gauche, pardon, du Rhône. Voilà, et des AOC assez avec des rendements assez faibles, hein, parce qu'on est en gros de 25 à 40 hectolitres à l'hectare, bah, par rapport à l'implantation très verticale des vignes. Une autre caractéristique, on a assez peu d'approches biodynamiques. Alors, est-ce que principalement lié à la difficulté de travailler la vigne et de labourer notamment ces terrasses qu'on appelle des chaillets dans la région, donc des terrasses très serrées, et puis surtout une antériorité forte, puisque ça fait des siècles, voire des millénaires qu'on a de la vigne. Alors d'aucuns disent, ce qui est certain, c'est que les Romains en faisaient là, mais peut-être que les Grecs déjà en faisaient. On aura l'occasion d'en parler du côté d'Ampuy en Côte-Rôtie, parce que Ampuy a plusieurs significations possibles.
On va revenir sur tout ça. Merci pour ce premier petit tour. Premier vin et première rencontre. Florence, tu nous as apporté un vin et on va appeler tout de suite un vigneron.
Donc, on va appeler Monsieur Laurent Fayol, puisqu'on va commencer par déguster son Gros Hermitage blanc, la cuvée Les Pontets.
Du domaine Fayol.
Croze, on est dans une assez grande, enfin, on est la plus grosse appellation, hein, puisqu'on a 1400 hectares sur les 3900. Et c'est plutôt l'expression, on va dire, la plus légère des vins sur l'ensemble des AOC, notamment en rouge. Et on est quand même à 92% de rouge et 8% de blanc.
C'est pour ça qu'on a voulu faire un blanc pour changer un petit peu, pour faire quelque chose un petit peu différent de ce que l'on connaissait.
Parce que le blanc est très minoritaire à Croze, encore une fois, c'est que 8% du volume produit.
On commence par un blanc et ensuite on fera trois rouges. Le tout en deux émissions. Ça sonne, vous avez gagné la valise.
Allô ?
Oui, bon, Laurent Fayol ?
Oui, bonsoir.
Oui, bonsoir, c'est Romain, j'anime le podcast La Terre à Boire, et je suis avec Florence.
Bonsoir.
Oui, bonsoir Florence.
Ça
J'espère
va
que ça va bien.
Ça va très bien, merci.
Bon, ben, merci d'avoir accepté l'invitation.
Avec plaisir.
On est en train, on commence tout juste à parler de votre région, du Rhône-Nord dans son ensemble, et puis on commence avec votre vin qu'on est en train de déguster.
Donc, j'ai pris un Pontet en blanc pour changer un petit peu, puisqu'on avait signalé que sur l'appellation Gros Hermitage, la production de blanc est assez petite, hein, c'est quand même majoritairement
oui,
les rouges, donc on voulait changer et on voulait faire un blanc. Vous avez plusieurs cuvées d'ailleurs en blanc, en Gros Hermitage, vous avez les Sens et vous avez les Pontet.
Oui.
Est-ce que vous pouvez expliquer un petit peu à ceux qui nous écoutent la différence entre les deux cuvées ?
Alors, la cuvée Sens est une cuvée d'assemblage où on retrouve les deux cépages de l'appellation Gros Hermitage en blanc, qui sont la Marsanne et la Roussanne. La Marsanne est prédominante, il y a à peu près 60% de Marsanne et 40% de Roussanne sur cette cuvée. Et qui est essentiellement issu de terroirs sur les villages de Gervan, Gros Hermitage, donc au nord de l'appellation Gros Hermitage.
D'accord.
Avec une vinification essentiellement en cuve et un petit peu de demi-nuit pour garder toute la fraîcheur et ce côté un petit peu floral, fruit à chair blanche que développe la Marsanne sur ses premières années.
D'accord, et donc sur cette cuvée qu'on est en train de déguster, les Pontets.
Donc là, les Pontets, c'est un lieu dit qui est en coteau sur le village de Gros Hermitage, où on retrouve un terroir granitique, et c'est une cuvée qui est 100% marsanne. Donc là, ce sont des vieilles vignes qui ont une soixantaine d'années, et qui sont plantées sur un coteau qui est exposé plein sud. Du coup, on a quand même un vin qui est assez dense, assez ample, tout en préservant une belle fraîcheur, une belle tension en finale liée à son terroir granitique.
Et donc, vous nous avez dit qu'on était sur des vieilles vignes. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de vous, comment vous êtes venu à la vigne, comment vous avez repris le domaine, puisque c'est un domaine familial ?
Oui, tout à fait. C'est un domaine familial qui existe déjà depuis plusieurs générations, puisque justement les vignes qui sont sur la cuvée Les Pontets blancs que vous êtes en train de déguster ont été plantées par mon grand-père. Donc ces vignes qui ont été plantées dans les années 50. Et la petite particularité supplémentaire justement de cette cuvée, c'est que on est sur ce qu'on appelle une sélection massale, c'est-à-dire que chaque pied de vigne a été greffé sur place. Contrairement à ce qu'on retrouve aujourd'hui, plus ce qu'on appelle les sélections clonales, où là c'est un pied de vigne qui a été multiplié chez le pépiniériste. Donc c'est une particularité supplémentaire de cette cuvée. Et c'est vrai qu'on a la chance sur le domaine d'avoir cet historique et pas mal de vieilles vignes. Et du coup, moi, j'ai baigné dès mon plus jeune âge dans cette ambiance. Et au fur et à mesure que j'ai appris à découvrir le vin, j'ai pris conscience du potentiel qu'avait le domaine. Et ça m'a conforté dans l'ambition d'essayer de mettre en avant tous ces terroirs qui ont beaucoup à raconter.
On voit sur le site internet que le domaine Fayolle est fondé en 1870, qu'on fait du vin dans la famille visiblement depuis 1814. Est-ce que vous avez le regard sur les générations passées, sur la façon dont vous aujourd'hui vous travaillez, la différence d'approche qu'il peut y avoir entre aujourd'hui et il y a 100 ans?
Ma sœur et moi qui gérons le domaine aujourd'hui, c'est pour ça que notre marque commerciale c'est Fayolle Fils et Fille. On est la sixième génération de vignerons sur le domaine, mais on fait de la bouteille depuis notre grand-père, donc depuis 1959. Donc c'est vrai qu'il y a un certain regard par rapport à l'évolution de la viticulture, même si ce qui s'est passé au-delà de notre génération à nous, on a les échos de la famille, mais effectivement, il y a eu pas mal d'évolutions pendant toutes ces périodes-là. La viticulture n'a pas été toujours aussi florissante que ce qu'elle l'est aujourd'hui, et notamment au début du XXe siècle, après le phylloxéra, il y a pas mal de coteaux qui ont été abandonnés dans notre région parce que la viticulture n'était pas très dynamique commercialement, et ils ont préféré replanter les vignes plutôt en pied de coteau. Et aujourd'hui, justement, toutes ces zones de coteaux dans notre région sont petit à petit remises en culture. Donc c'est très bénéfique parce que c'est les grands terroirs qui sont remis en culture depuis une vingtaine d'années. Donc ça, c'est intéressant.
Bonsoir, moi c'est Patrice, je fais partie de l'équipe.
Je ne vous ai pas présenté toute l'équipe, il y a aussi Patrice, il y a Bertrand, il y a Laurent autour de la table.
Là, en fait, on est sur un millésime 2015. Est-ce que vous confirmez que dans la région, on était sur quelque chose d'assez solaire, là, avec les Marsannes? Est-ce qu'on est sur une expression plus riche, on va dire, qu'habituellement, sur le Pontet?
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a une amplitude sur le millésime 2015 qui est supérieure à la moyenne, si je peux dire, de par le climat qu'on a eu sur ce millésime-là. Mais ce qui est intéressant, c'est que les blancs sur 2015 ont quand même préservé quand même une belle fraîcheur. Donc du coup, on a l'opulence, mais tout en restant sur quelque chose d'assez équilibré, qui fait que c'est un millésime qui goûte bien aujourd'hui, mais qui a un bel avenir.
Bonsoir, moi c'est Bertrand. mais du coup, question toute bête, mais en tant que vigneron, comment vous faites justement pour garder cette fraîcheur face à un millésime où clairement il fait chaud? Comment on fait pour garder de l'équilibre?
Aujourd'hui, la date de récolte est devenue quand même un facteur très très important, et je pense que tous les vignerons ont pris conscience qu'en blanc, il n'était plus très intéressant d'aller dans la surmaturité, mais au contraire d'aller vraiment chercher le moment opportun entre une maturité aromatique et garder suffisamment d'acidité dans les vins. Et après, pour ce qui est de la vinification sur les Pontets blancs, on est sur une vinification et un élevage en fût. Il y a un peu de barrique et de demi-nuit, qui sont les fûts de 600 litres. Et nous, ensuite, c'est élevé sur lit pendant 11 mois. Et les lits vont justement protéger le vin tout au long de son élevage et permettre de préserver la fraîcheur aromatique tout au long de l'élevage.
Parce que c'est vrai, j'ai choisi ce vin parce que j'aime cet équilibre. Entre, il y a un côté un petit peu frais, un petit peu fruit, mais il y a aussi de la matière. Je pense que c'est dû à son élevage, mais tout ça est très travaillé dans l'équilibre. Il n'y a pas de côté chaleureux, il n'y a pas de surpuissance. C'est un vrai travail d'équilibriste, très joli sur ce vin et entre autres sur ce millésime. Et vous nous parliez justement des difficultés liées aux dates de vendange. Qu'est-ce que vous avez remarqué, vous, par rapport, puisque vous avez quand même une histoire assez longue, c'est sur les dates de vendange qui se rapprochent de plus en plus?
Oui, effectivement, j'ai quelques millésimes maintenant à mon actif, et c'est vrai que il faut être relativement réactif sur la date de vendange des blancs. Les deux derniers millésimes qu'on vient de passer, 2017 et 2018, nous l'ont montré. On est amené maintenant parfois à être prêt fin août à aller chercher quelques parcelles de blancs très précoces, notamment celle des Pontés Blancs, une des plus précoces sur le domaine. Donc à chaque millésime, il faut se remettre en question et être réactif pour savoir suivre la maturité au moment le plus judicieux. Ça, c'est quelque chose qui est assez nouveau depuis, on va dire, une petite dizaine d'années. Ouais.
La date de vendange, c'est votre principale variable d'ajustement, en fait, pour faire face à des conditions variables d'une année sur l'autre. Là, par exemple, 2015, vous n'avez pas changé dans les méthodes, dans la vinification, dans les assemblages?
Non, ouais, effectivement, non, je pense pas. En blanc, il n'y a pas de... On ne va pas travailler sur l'extraction, choses comme ça, comme en rouge. Donc, après, c'est au niveau du pressurage où, effectivement, on peut peut-être modifier un peu les sélections de jus, mais ça va pas avoir une influence très importante. En blanc, effectivement, c'est vraiment la date de récolte est assez importante, ouais, je pense. Encore plus qu'en rouge.
Et on vous remercie de vous avoir au téléphone parce que vous êtes souvent dans vos vignes et c'est pas évident de vous joindre. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce souci sur la géologie de Crozes Hermitage? Comment vous faites pour travailler les sols sur ces appellations et entre autres sur le Rhône Nord où les terrains sont très escarpés et où c'est un petit peu compliqué le travail de la vigne? Est-ce que vous pouvez en parler un petit peu plus?
Oui, bien sûr. Donc nous, en fait, c'est le domaine. Moi, je suis revenu depuis un peu plus d'une quinzaine d'années et on a converti progressivement le domaine en bio. Donc ça nous a amené à remettre en place des cultures, enfin des méthodes culturales qui étaient au préalable utilisées par mon grand-père, notamment la cuvée Les Pontés Blancs est entièrement labourée au cheval. Donc aujourd'hui, c'est pas nous qui avons notre propre cheval, mais c'est fait en prestation de service, tout simplement parce qu'il y a certains coteaux très pentus où la mécanisation est très difficile. Après, on est outillé avec des outils bien spécifiques aux coteaux, les chenilles, les treuils, mais c'est vrai que On a remis au bout du jour beaucoup de techniques ancestrales sur le nord des Côtes du Rhône, sur les Côtes du Rhône septentrionaux, pour supprimer justement l'usage des herbicides.
Parce que vous nous avez cité deux choses qui sont un petit peu atypiques, hein, que la plupart de vos vignes sont en sélection massale, ce qui est assez rare. Et que vous travaillez donc en agriculture biologique, ce qui n'est pas vraiment la majorité
en Rhône-Nord.
Sur la partie Rhône et Nord, entre autres. C'est, ouais. Comment vous vous en sortez par rapport à ces difficultés supplémentaires que vous pouvez avoir par rapport à d'autres qui peuvent travailler en conventionnel?
Je pense que pour s'orienter dans cette optique-là, il faut vraiment croire que la culture biologique va apporter un plus dans les vins. C'est pas uniquement pour avoir l'estampille, parce que vu la difficulté des méthodes, c'est vraiment une approche où il faut avoir la conviction.
Est-ce que le jeu en vaut la chandelle, alors?
Parce que nous, quand on goûte le vin, on dirait oui.
Déjà, on est satisfait que ce soit un vin bio. On trouve ce vin formidable. Mais vous avez le recul. Qu'est-ce que vous diriez entre justement le passage, à part vous compliquer la vie, qu'est-ce que ça a apporté concrètement au vin?
J'ai une illustration qui est assez spectaculaire. Les parcelles des Pontés Blancs, mon grand-père avait son propre mulet. Donc lui, il le travaillait au cheval. Ensuite, dans les années 80-90, pour rester compétitif par rapport au développement de l'appellation Crozes en plaine, mon père a été amené à utiliser des herbicides pendant 25 ans sur cette parcelle. Et moi, j'ai arrêté de les utiliser maintenant depuis une quinzaine d'années. Et on a vraiment vu la texture du sol qui a changé. En fait, on a beaucoup moins de problèmes d'érosion parce que le fait de recréer de la matière volcanique, le sol est mieux lié et moins susceptible à être emporté par les pluies. Et puis surtout, ce qui est assez spectaculaire, c'est qu'on a vu des pieds de vigne qui poussaient mais qui ne produisaient plus de raisins qui se sont remis à faire des petites grappes. Donc c'est bien que la fertilité des sols a une influence notable sur les plants de vigne.
Vous venez d'évoquer l'évolution en fait de la taille de l'appellation Creuse-Hermitage. Vous avez dit suite à l'extension de l'appellation en plaine. C'est vrai que c'est une appellation dont la surface a un petit peu changé, c'est ça?
Oui, tout à fait. En fait, le décret initial avait implanté l'appellation uniquement sur le village de Creuse, donc en 1936. Et ensuite, en 1951, il y a une extension de zone qui a développé l'appellation sur 11 communes. Donc aujourd'hui, on a 5 communes qui sont plutôt sur des reliefs coteaux au nord de Saint-Hermitage, et 6 communes qui sont à l'ouest et au sud de Tain sur une grande plaine de galets.
Et du coup, ça donne des vins un petit peu hétérogènes aussi au sein de la même appellation.
Alors, ça donne une diversité de terroirs, parce qu'on est plutôt granitique au nord et galets avec un petit peu d'argile au sud. Et donc forcément, des profils de vins différents sur ces deux tendances de terroirs, ouais, tout à fait. Ouais.
Et du coup, vous en souffrez, vous qui êtes en coteau et avec des vignes compliquées à travailler, d'avoir de la concurrence de vignerons en plaine, ou c'est beaucoup plus simple?
Non, alors ça... Oui, à une époque, il y a eu cette approche de tendance de viticulture. Je pense qu'aujourd'hui, c'est intégré la diversité dans l'appellation Creuse-Hermitage. Nous, on est aussi maintenant propriétaire de parcelles au sud parce que c'est quand même le gros de l'appellation et c'est intéressant d'avoir des vignes mécanisables. Mais depuis une quinzaine d'années, pas mal de maisons sont venues réinvestir sur des parcelles en coteau au nord parce que justement... la qualité des terroirs s'illustre particulièrement depuis 15-20 ans et la tendance est à revenir réinvestir dans ces coteaux. Donc nous on en est très contents parce qu'on trouve d'autres porte-drapeaux qui font avancer avec nous cette zone-là.
C'est vrai que l'appellation Creuse-Hermitage, c'est une appellation qui bouge beaucoup, dont on entend beaucoup parler, qui fait beaucoup parler d'elle. Moi je pense... quelque chose que vous faites une fois par an, c'est un sommelier dans mon canap, ou c'est un sommelier qui va chez les gens, les particuliers, avec 3 bouteilles de Creuse-Hermitage et qui parle, à qui on a donné une jolie carte de l'appellation, et qui parle des sols et qui fait découvrir l'appellation aux particuliers. Et c'est vrai que quand on est caviste, quand les gens nous parlent d'un vin de la vallée du Rhône et qu'ils s'orientent sur la vallée du Rhône Nord, au jour d'aujourd'hui, quand on dit Creuse-Hermitage, c'est un nom qui est connu, alors que ce n'était pas le cas il y a quelques années de ça. Il y a quand même eu beaucoup de travail pour faire parler de l'appellation.
Il y a une belle dynamique au niveau de l'appellation pour faire des manifestations qui interpellent et qui soient porteuses en termes d'image. Donc ça montre bien on a une moyenne d'âge des vignerons qui est assez jeune sur l'appellation et tous ont envie de faire avancer les choses.
Je pense que c'est
très porteur.
Ce qui montre aussi la hausse qualitative de l'approche bio, c'est le fait de faire aussi un vin blanc 100% Marsan, parce que c'est pas hyper courant, c'est plutôt des assemblages dans la région. Et puis Marsan, c'est plutôt quelque chose qui donne un peu la structure et le côté amertume à la Roussanne, qui est plutôt sur les arômes un peu capiteux. Donc c'est a priori pas un cépage noble, a priori, c'est plutôt la Roussanne qui est virtuose. Et là, la Marsan, du coup, elle est assez virtuose, c'est-à-dire qu'on a la richesse. Et on a aussi ce qu'elle donne en général dans les assemblages, c'est-à-dire le côté un peu amertume en fin de bouche. Parce qu'elle est souvent utilisée dans les assemblages Rhône-Nord pour donner un peu de structure, on va dire, à la Roussanne qui est plus volubile. Quoi.
Tout à fait, ouais.
Et donc c'est bien d'avoir un 100% Roussanne parce que c'est assez rare. Et c'est de,
Marsanne.
C'est Marsanne, pardon. Et ce n'est pas considéré comme le cépage blanc noble, a priori, versus Roussanne-Vionnier.
C'est vrai que c'est une relation qu'on fait souvent entre la Marsanne et la Roussanne. En fait, il y a quand même beaucoup de vieilles vignes de Marsanne sur les coteaux, que ce soit dans l'Hermitage ou au nord de Creuse-Hermitage. En fait, la Marsanne, c'est un cépage qui s'exprime très bien à partir du moment où il est sur un terroir un petit peu stressant. Il lui faut justement un petit peu des sols assez maigres pour qu'elle ait des bonnes maturités, qu'on soit sur des petites grappes. Nous, sur nos sélections nasales, on est vraiment sur des petits grappillons de Marsanne, donc on a une maturité qui est assez homogène. Dans les années 80-90, quand on a commencé à développer les clones, ce dont je faisais allusion tout à l'heure, on s'est retrouvé avec des Marsannes qui développaient des grappes beaucoup plus grosses, et du coup, on a des maturités qui sont assez hétérogènes entre l'extérieur et l'intérieur de la grappe, et on a eu tendance un petit peu à stéréotyper la Marsanne comme un cépage un peu plus fade, moins aromatique que la Roussanne qui, même sur des terres profondes, même sur des grappes un peu chargées, va toujours s'en sortir peut-être un petit peu mieux en termes d'aromatique.
Ouais, merci pour ces explications, hein. C'est vraiment un travail de précision, parce que jusqu'à la sélection du cep qui va donner les petits grains, qui va optimiser en fait le travail sur la Marsanne.
Et on a... Parce que, rappelez-nous le rendement, parce que vous avez un tout petit rendement.
Oui. Oui, là, on est sur des rendements qui oscillent autour de 30-35 hectares, ouais, grand maximum.
Ouais, c'est très réduit. Et ce qu'on a dans l'air, en tout cas, est vraiment...
C'est le seul rendement de l'Ermitage.
Hein, est vraiment superbe.
Ah, bon, ouais. Ouais.
Alors, mais justement, je peux me permettre une autre question, pour une fois qu'on a un vigneron.
Tu peux te permettre. Alors, nous, on a des vignerons presque à toutes les émissions, Bertrand, tu sais.
Excuse-moi.
On a un invité.
Mais c'est un vigneron, surtout, qui a des terres et en Croz-Ermitage et en Ermitage, parce qu'on parlait justement de... du fait que Croz-Ermitage était connu maintenant des consommateurs, des clients, et alors que bon, je veux dire, historiquement c'est plus l'Ermitage tout court, hein, qui est l'appellation prestigieuse, mais aujourd'hui, si on demande à un Pékin moyen dans la rue, Croz, peut-être qu'il a entendu parler, mais Ermitage, pas sûr. Donc, on a un vigneron qui a des terres dans les deux appellations, donc enfin vous allez pouvoir répondre à cette question, c'est quoi la différence?
Le piège.
Alors, Ermitage, c'est une toute petite appellation, hein. Ça fait 133 hectares, qui est en coteau, en dessus de la ville de Tain-l'Ermitage. Et ce qui la différencie des coteaux que nous avons, nous, sur Croz-Ermitage, qui sont granitiques comme certaines parties de l'Ermitage aussi, c'est qu'en fait, à Tain-l'Ermitage, on est sur l'endroit où la vallée du Rhône est la plus étroite. Vous avez le vignoble de l'Ermitage, le Rhône, et de l'autre côté, le vignoble de Saint-Joseph. Et du coup, la colline de l'Ermitage étant exposée plein sud, elle est protégée du vent du nord, en fait. Et on a un microclimat sur cette colline qu'on retrouvera nulle part ailleurs sur les côtes du Rhône septentrionaux.
Donc c'est dû à l'étroitesse du sillon rhodanien et l'exposition plein sud, c'est ça?
Tout à fait, parce qu'en fait, il n'y a pas d'entrée de vent du nord sur la colline de l'Ermitage.
Elle est
exposée plein sud, protégée des vents froids.
D'accord. Et sur la colline, est-ce qu'il y a du coup une partie qui est dédiée au rouge, une partie qui est dédiée au blanc? Parce que sur l'appellation, on fait les deux.
Oui. Alors, il y a une diversité de terroirs sur l'appellation Ermitage. On retrouve du granit, on retrouve des lusses, qui sont des sables, et on retrouve de l'argile au calcaire. Donc après, la Marsanne est présente sur les différents terroirs, aussi bien granitique que l'œs, un petit peu moins sur les argiles au calcaire, mais elle est beaucoup plus présente sur l'appellation, en proportion sur l'appellation Ermitage que Croz-Ermitage.
Et du coup, dans le verre, comment ça se traduit cette différence entre Croz et Ermitage?
En Ermitage, on a des vins qui sont beaucoup plus puissants en termes aromatiques dès le premier nez. On a une complexité aromatique avec, on retrouve des notes un petit peu de fruits confits, on retrouve le fruit à chair blanche, donc une belle intensité. Et puis c'est en bouche, il y a un volume sur les ermitages qui peut rarement être égalé avec un gros ermitage.
Merci pour ces petites explications. Merci et bravo pour ce vin. On a l'habitude, en général, de chercher les accords. Comme on est en train de boire votre blanc, les pontés, vous conseilleriez de le boire avec quel type de plat? En quelle occasion?
Donc, c'est un blanc qui est quand même assez, assez dense. Mmh. Du coup, on le privilégierait avec plutôt un poisson cuisiné. Je l'associerais comme ça sur sa jeunesse plutôt avec un plat chaud. Plutôt un poisson d'eau douce.
D'accord.
Après, c'est un blanc qui a un vieillissement assez intéressant. Et à partir de 4-5 ans d'âge, quand on arrive sur les arômes secondaires et puis que la fraîcheur des premières années s'est un petit peu estompée derrière le volume du vin, on a une association très intéressante avec une volaille à la crème avec une petite sauce au mori. C'est une association qui est très intéressante avec la Marsanne.
Superbe, ça nous donne l'eau à la bouche.
En ce moment, on le propose au restaurant sur un filet de Saint-Pierre servi avec un orgoto, donc ouais. De l'orge préparée comme un risotto et vous avez la texture, le côté un peu rond, un peu gras, et ça garde quand même la fraîcheur pour la délicatesse du Saint-Pierre. C'est ce qu'on fait en accord avec en ce moment au restaurant et ça matche bien.
D'accord.
Merci Laurent Fayol. On salue également, donc c'est le domaine Fayol fils et fille. Votre sœur travaille également avec vous, Céline.
Tout à fait.
Bravo pour ce travail, bravo pour vos vins, d'être un des rares vignerons dans le Rhône-Nord à faire du bio. Vous n'êtes pas seul, mais ce n'est pas une région qui est particulièrement convertie au bio en masse, on va dire. Donc voilà, tout le mérite vous revient. Et voilà, et puis merci d'avoir passé ce petit moment avec nous. Et encore une fois, bravo pour ce vin. Hein. On se régale à le déguster.
Merci beaucoup.
Avec plaisir.
Merci.
Merci Laurent. Au revoir.
Merci beaucoup. Bonne soirée.
Merci.
Au revoir.
Bah, c'est très bon, hein?
Oui.
Vous pouvez parler pendant que je raccroche. Mais non, c'est super. Moi, c'est exactement les blancs du sud que.
Mais c'est vrai qu'on est
que
pas,
j'aime.
Du coup, on n'est pas très très loin d'un Châteauneuf blanc. Hein. Donc, on parle d'ailleurs des mêmes accords. On n'est pas très loin. Voilà. Après, d'autres. En tout cas, l'accord volaille. Ouais.
En fait, la différence. On n'est pas forcément très typique d'un blanc du Rhône Nord. Ou je dis une bêtise. Parce que moi, si tu me dis blanc du Rhône Nord, je m'attends à avoir du Viognier. Là, il y en a pas. Je dis une grosse bêtise ou pas?
Non, non, dans le sens où c'est vrai que le Viognier a tendance à être très très présent et aussi parce qu'en ce moment, ça marche bien. Parce que c'est un cépage assez flatteur, assez tout de suite.
Le Viognier est à la mode.
Le Viognier est à la mode.
Il est à la mode.
Ah, c'est vrai?
Oui, très.
Qu'est-ce qui fait qu'il est à la mode?
Le côté charmeur, super fruité, hein, fait que ça plaît beaucoup. Hein. Et les vignerons travaillent énormément sur le côté très frais, très fruit. Même tellement fruit qu'on aura des sensations de sucrosité, même s'il n'en reste pas forcément. Enfin voilà, il y a des vignerons qui travaillent beaucoup sur le côté charmeur du Viognier.
Le problème du Viognier, c'est pour moi, c'est le problème des vins que j'aime pas trop, c'est que c'est le deuxième verre. C'est-à-dire que le premier il passe super bien,
c'est
mais
ça.
Pour aller choper le deuxième, c'est quand même hyper riche. Ouais. Ça manque de tension, ça manque d'équilibre, c'est quand même beaucoup dans le capiteux.
Non, mais, alors,
après, il y a différentes expressions du Viognier.
Le
il y a
pur Viognier,
le château grillé
le
va aller sur des choses, même je n'en ai pas bu, j'en bois pas tous les jours non plus. Le château grillé va aller sur des choses beaucoup plus équilibrées.
Pas demain que tu vas en boire, hein, parce que c'est mal barré.
Wow, c'est possible, on ne sait jamais.
Oui, non, mais je ne dis pas le contraire.
Mais
moi,
voilà,
ne va faire que monter.
Le Viognier est très séducteur, mais un verre, quoi. Au bout de deux, c'est plus.
Non, mais après, c'est toujours pareil, c'est une histoire d'équilibre, comme tu dis. C'est-à-dire qu'il y a des vignerons qui font ça très bien. Qui recherchent justement cet équilibre, et d'autres, plus vraiment aller dans la tendance, qui vont juste prendre le Viognier parce que ça te pète au nez et c'est très charmeur et flatteur, comme disait Florence. Mais effectivement, tu es écœuré.
D'ailleurs, on peut faire une petite aparté, dans la vallée du Rhône Sud, il y en a de plus en plus qui plantent du Viognier pour aller chercher sur ce terrain un peu marketing du Viognier super fruité, super facile à boire.
Il y en a même qui plantent du Chardonnay en Rhône Sud, de plus en plus.
Le Viognier, pardon, donc, c'est le cépage unique de Châteaugrillet et de Condrieu, bien sûr. Et après, il est utilisé, quand même, on a le droit de l'utiliser sur les autres blancs des appellations au nord, mais il est plutôt utilisé là, à 5-10% pour apporter une touche fruitée aux assemblages dominants Marsanne-Roussanne. Mais sinon, il est à 100% sur. Château Grillet, qui est une sous-appellation de 3,5 hectares, possédée par François Pinault depuis 2011, de Condrieu.
C'est pour ça que je disais que tu n'es pas prêt d'en boire, parce que depuis que c'était déjà très cher, mais depuis que ça a été racheté.
Ouais. Ce vin, en tout cas, qu'on vient de déguster du domaine Fayol, fils et fille, à Crozes-Hermitage, on est dans quel ordre de prix, Florence? C'est toi qui as apporté ce vin?
Prix boutique.
Ouais. par exemple, les boutiques.
Caviste. J'en ai eu pour 30 euros, je crois.
Autour de 30 euros la bouteille, prix boutique, d'accord. Oui, quand même.
Mmh. Oui, mais c'est, alors encore une fois, si après, on a des vignes, on essaie de marcer 100% Marsanne.
C'est des Pontets, hein, parce qu'il a l'essence, et l'essence, c'est moins cher. Voilà, faut remettre en... C'est pas aussi cher que son Hermitage, mais c'est un peu plus cher que son Croze sur l'essence. Ce qui est bien chez Fayolle, c'est que il y en a un petit peu pour toutes les occasions et pour toutes les bourses. Il y a l'essence sur un prix très attractif. On va être sur un prix boutique aux alentours de 15-20. On va avoir les Pontets sur un prix aux alentours de 30. Et après, on a ces Hermitages. Je crois qu'on est au plus aux alentours de 40-50. Voilà.
Alors, on reste dans le Rhône-Nord, on traverse le Rhône, parce que là on était rive gauche, on était à l'est du fleuve, on remonte un petit peu, on va en Côte Rôtie, et ouais. On change de couleur au passage.
Tout à fait.
On arrive sur la Syrah.
Exactement, donc là on était dans les appellations un peu classiques, donc Croze est l'appellation star. Alors il paraît quand même, enfin assez connu, il paraît quand même que Saint-Joseph est plus demandé sur cette gamme. On va dire qu'on est dans le, entre guillemets, bas de gamme de la région, c'est-à-dire les bouteilles à entre 15 et 20 euros qui sont accessibles.
Est-ce qu'on peut dire que
Croze est à Saint-Joseph?
Est-ce qu'on peut dire que Croze c'est un peu une entrée dans les Rhônes-Nord?
C'est la nouvelle appellation un peu challenger de Saint-Joseph, qui était l'appellation Rhône-Nord abordable.
D'accord.
Et là, on va vers l'appellation que les Français adorent, kiffent. Hein, 70% des côtes rôties sont vendues et consommées en France, sur tout ce qui est produit. Côte rôtie, ça porte bien son nom, hein, c'est-à-dire qu'on a une côte qui est rôtie par le soleil. On est sur un climat lyonnais, mais avec une exposition sud-est, séparé en gros deux grands terroirs, côte brune et côte blonde. Sauf erreur de ma part, blonde au nord, brune au sud, ou l'inverse d'ailleurs, brune au nord et blonde au sud, et qui sont essentiellement, exclusivement, rouge et en Syrah. Et donc on est autour d'Ampuy. Alors il y a un marché à Ampuy qui célèbre la côte rôtie depuis 1928. Et Ampuy, alors il y a un peu une légende autour d'Ampuy, hein, parce que ça voudrait dire, selon les origines, plusieurs significations. Il y en a qui disent que ça vient d'Ampelos, donc vigne en grec, donc donnerait une origine grecque.
Le fameux terme ampélographie.
Ampélographie, etc. Une deuxième origine qui dirait que ça vient d'empoisser, puisque les Romains, pour donner du goût et conserver le vin, le mettaient de la poisse. Et la troisième serait que ce serait une origine française, puisque ce serait ample puits, donc autour du puits. L'origine du terme Ampuy. Donc il y a vraiment la ville.
Je connais même un village qui s'appelle Ampuy, figure-toi.
Tout à fait. Et donc, oui. Côte Rôtie, on a 310 hectares, c'est en expansion. Et on est sur une gamme de vins qui va de pas trop cher, on en trouve encore à 30 euros, ce qui est le cas du vin de ce soir. Bah pour un Côte Rôtie, alors tout est relatif.
Oui, c'est ça.
Mais si tu veux la Turque, la Mouline, à 250 euros de chez, chez Guigal. Guigal a eu Étienne Guigal, donc qui était vigneron de chez, je crois que c'était Vidal Fleury, c'est un vigneron chez Vidal Fleury, dès les années 50, le grand-père, a beaucoup travaillé le vignoble de Côte Rôtie, et on a fait maintenant en fait quelque chose d'assez connu et à résonance mondiale.
Guigal, c'est une maison qui est aussi un gros négociant. On trouve des Guigal en grande surface.
Enfin, il faut reconnaître, il faut admettre.
C'est comme Chapoutier.
C'est pas forcément la version. C'est une version très. Allez, osons les mots, très boisée, très parkerisée du Côte Rôtie, hein, que ce soit la Mouline, etc. Mais c'est ce qui a fait monter, la perception qualitative du Côte Rôtie. Et là, ce qui est intéressant, en tout cas sur ce vin-là, donc, qui est un vin de chez Chambéron, donc 2013 en Angeline. C'est qu'on est normalement et théoriquement sur une expression entre guillemets un peu plus svelte, un peu plus bourguignonne, qui va plus chercher la finesse de la Syrah que son côté capiteux, riche, boisé.
Alors, la Syrah, c'est le cépage du Rhône-Nord. On en avait dit un mot quand on avait fait le Rhône-Sud, avec notamment notre ami du domaine des Maravillas qui s'amusait à faire des 100% Syrah, et vous aviez dit il joue un peu à faire le Rhône-Nord. D'abord, pourquoi ? J'ai une question un peu toute bête, mais pourquoi en Rhône-Nord, on travaille particulièrement, principalement, du monocépage sur le cépage Syrah en rouge ? Est-ce que c'est une adaptation à l'environnement, Laurent ?
Peut-être parce que simplement le grenache ne mûrit pas assez à la hauteur de ces appellations-là. Donc ça simplifie un petit peu le choix, non ?
Une autre expression, explication possible, c'est qu'il serait originaire de là, en fait. Alors, il y en a qui disent qu'il serait venu par les Alpes, il y en a qui disent qu'il serait venu le Shiraz de l'Est de l'Europe, puisque les origines de la vigne en Iran, les origines de la vigne sont quand même du côté de la Mésopotamie, hein, du croissant fertile. Par contre, il y a un cépage qui s'appelle la serine, qui est une vieille Syrah, qui serait originaire de là. Il y a certains vignerons, d'ailleurs, qui font un assemblage Syrah-Serine, donc ils ont gardé des vieilles vignes. Donc la Serine serait la grand-mère, entre guillemets, de la Syrah. Et il y en a encore en Rhône-Nord. Donc il est probable que ce soit originaire de là. Après, il y a le fait que ce soit probablement aussi sa meilleure expression.
Il y a eu un tas de légendes sur l'origine de la Syrah. Il y a aussi des gens qui disaient que c'était les Templiers qui l'avaient ramené de Syrie. Enfin, il y a des tas de légendes. Mais aujourd'hui, il y a des analyses ADN qui ont prouvé que c'est le croisement, en fait, d'un vieux cépage savoyard et d'un vieux cépage originaire de la Drôme. Donc, en fait, c'est vraiment un cépage local, quoi. Donc
la Syrah, qui est quand même plantée dans le monde entier, a priori, elle vient de là, quoi.
Elle vient de là, c'est sûr.
Et c'est là qu'elle trouve sa meilleure expression. Si on prend la France, par exemple, les 100% Syrah, c'est là qu'on fait les meilleurs.
Bah oui, ça, c'est sa terre, hein,
Quelles sont les caractéristiques de la Syrah?
C'est là, en France, où on fait la meilleure. Maintenant, il faut voir que la Syrah est un cépage qui plaît beaucoup et qui s'est énormément exporté au travers du monde. Mm-hmm. Et il y a de très belles expressions de Syrah dans le Nouveau Monde. Je pense, par exemple, à l'Australie, où on fait, entre autres, un très, très grand vin qui est Penfolds.
Et le Grange.
Le Grange, et c'est une très belle expression de la Syrah. C'est différent, mais c'est une très belle expression de la Syrah, et je pense qu'il faut compter avec cette expression-là. Il ne faut pas s'arrêter juste à nos frontières.
Disons que voilà, c'est son expression, son implantation la plus septentrionale. C'est-à-dire que la Syrah n'est pas plus plantée, sauf erreur de ma part, au nord dans le monde. Donc c'est là où probablement elle a le plus de fraîcheur dans tous les cépages mondiaux. Ensuite, si on veut parler de la Syrah, elle a vraiment des caractéristiques hyper... variétale, comme on dit, c'est-à-dire intrinsèque, qui n'est pas lié au vieillissement, qui sont le côté lardé, poivré, violette. Ça, c'est les trois expressions basiques de la Syrah en tant que telle. Et après, surtout dans les côtes rôties, elle évolue souvent dans un registre d'épices assez complet, mais aussi beaucoup sur la tapenade et le côté olive.
Il y a beaucoup d'épices hein, sur les Syrah de côte rôtie. Il y a toujours des notes poivrées, et c'est poivré, c'est vaste, parce que c'est pas juste poivre, ça peut être plus... un poivre blanc, plus un poivre noir, ou un poivre plus fin, plus délicat, comme un poivre de Sichuan. Donc les expressions, ne serait-ce que sur un arôme variétal de la Syrah, sont déjà très vastes en fonction qu'on goûte un côte rôti de chez un tel et d'un autre du vigneron qui a la parcelle qui est juste à côté. Ça peut être totalement différent.
Et donc là, juste pour parler de rendre... hommage aux vignerons, parce que donc là c'est le domaine Chambéron, c'est 5 hectares, 3,7 hectares en Syrah, 1,3 en blanc. Et là, donc là sur l'Angeline que nous buvons, on est 80% issus du domaine des Moutonnes et 20% du Lancement. Donc les Moutonnes, on est en côte brune, donc on a un assemblage côte blonde, côte brune, puisque les Moutonnes, on est dans la côte brune et Lancement, on est dans les côtes blondes. Donc c'est un assemblage de deux Syrahs sur deux terroirs. Et après, on fait la distinction un peu simplifiée faite par Guyal, hein, parce que c'est lui qui a lancé Côte Blonde, Côte Brune, on va dire, d'un point de vue marketing. Mais en Syrah, il y a beaucoup plus de terroirs que cela, mais principalement moins liés aux caractéristiques du sol que liés à l'exposition des collines. Qui fait qu'on on a le soleil, on n'a pas le soleil, on a le mistral, on n'a pas le mistral. Mais du coup, ça donne des vraies caractéristiques spécifiques à chaque flanc de colline, pratiquement. Et on pourrait dire qu'il y a autant de lieux-dits que d'expressions de la Syrah dans les côtes rôties. Et on a de plus en plus donc de gens qui travaillent les parcellaires. Donc on a parlé de Guigal historiquement sur la Turque, la Moutonne et la Trilogie.
La Mouline.
Non, ouais. Mais il y a effectivement plein de choses différentes en côte rôtie.
Et ce qui est beau, moi, je trouve, dans les côtes rôties, en général, c'est la profondeur des vins et c'est la plénitude des vins. C'est-à-dire que par rapport à d'autres Syrahs du nord de la vallée du Rhône, il y a toujours cette impression de chaleur, un vin qui t'emplit la bouche, qui te remplit la bouche et qui prend de la place, mais tout en gardant beaucoup d'élégance, beaucoup de finesse. C'est la marque des grands vins, mais c'est aussi la marque des belles appellations, des beaux terroirs qui donnent ce côté toujours plein, mais harmonieux. La finesse n'empêche pas l'élégance. La puissance n'empêche pas l'élégance, pardon. C'est vraiment typique de la côte rôtie, pour le coup.
Ce que tu dirais de ce vin là qu'on boit, Domaine Chambéron, on est déjà sur un millésime 2013, donc il a déjà un petit, il a quelques années. Je ne sais pas combien de temps on peut faire vieillir la Syrah.
Je l'aurais gardé encore un petit peu quelques années, moi.
Ah ouais, mais il faut bien faire l'émission. Hein.
Et après, merci. C'est joli.
Mais c'est à qui le dis-tu? J'aurais bien gardé un peu plus longtemps. Hein.
Merci Patrice d'avoir apporté ce vin.
Non mais
sacrifié,
ça, c'est intéressant,
ce vin.
C'est,
il est... sacrifié. Tu penses toi aussi Laurent qu'il aurait mérité d'attendre un peu?
Non, j'ai beaucoup de plaisir à le boire.
Alors ce qui est intéressant, je trouve qu'on le sent, mais ça, si je l'avais pas su, j'aurais probablement pas senti. Mais il est partiellement vinifié en grappe entière, donc avec la rafle, pas en totalité. Mm-hmm. Ce qui est pas hyper courant dans le coin. Et donc
on a tendance à érafler complètement, c'est ça?
Ce qui est une grande tradition de
d'accord, autant pour moi, alors, grande tradition.
Qui se fait moins maintenant parce qu'on
donc on
arrive
on revient
à
aux origines
plus facilement. Mais...
Ce que je voulais dire, c'est qu'il revient aux origines, parce qu'encore une fois, Kermit Lynch en parlait, et souvent il n'aime pas trop l'expression de la Syrah faite par Guigal, très riche. Et en fait, on parlait de la fraîcheur de sève dans des textes anciens de la Syrah en côte rôtie. Et donc je pense qu'on revient en fait avec cette expression-là à ce que c'était il y a plusieurs dizaines, voire centaines d'années. Et qu'on avait un peu perdu avec les expressions très boisées de Guigal.
Mais c'est vrai qu'il y a de la fraîcheur dans ce vin, et c'est ça qui est assez plaisant, c'est ce côté un peu sautillant, quoi. C'est-à-dire que c'est en bouche, voilà, c'est pas lourd, hein, c'est pas trop boisé, c'est juste frais. Il y a du fruit quand même, il y a des petites notes un petit peu épicées, mais qui sont relativement légères. On est plus sur le fruit croquant et voilà, des petites épices douces, un peu de muscade et un petit côté un petit peu végétal. Tu parlais de fraîcheur de sève, c'est vrai que c'est un peu ça. C'est-à-dire que...
Est-ce que tu sais justement s'il met un petit peu de vionnier comme ça peut se faire dans...
Alors
dans
non, il est 100% Syrah. Par contre, il n'y a que 20% d'élevage en bois neuf. C'est-à-dire qu'il y a quand même plutôt des élevages vieux bois, donc pour pas trop marquer le vin.
Mais pas effectivement, dans la Syrah... Pas d'élevage en cuve béton hein? Pas d'élevage en cuve béton?
Pas que je sache.
En tout cas, il y a cette couleur. La Syrah, c'est aussi une couleur.
Ça, c'est vrai. C'est toujours un beau rouge profond dans sa jeunesse avec un reflet violacé. À l'aveugle, quand on fait goûter des Syrahs, on les reconnaît assez facilement. Faut pas pousser, mais enfin, elles sont quand même assez identifiables. Et voilà, c'est vraiment pour le coup un joli vin sur une vraiment la star du nord de la vallée du Rhône, parce que on peut quand même le répéter que côte rôtie, c'est en rouge en tout cas l'appellation la plus réputée et la plus prestigieuse du nord de la vallée du Rhône.
Alors qu'apparemment, ne serait-ce qu'il y a une trentaine d'années, ils avaient beaucoup de mal à vendre. Leur vin.
Ce que disait Patrice sur le rôle pionnier de Guigal, hein, c'est pas faux. Alors, c'est un grand monsieur. Après, on aime ou pas ses vins, c'est autre chose. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a fait beaucoup pour le prestige de la région.
On peut dire ce qu'on veut, mais quand on goûte la Turque, on sait quand même qu'on est face à un grand vin. Donc, je sais qu'on n'a pas, tout le monde n'a pas l'occasion tous les jours de goûter une bouteille de Turque.
D'ailleurs, nous non plus. Allez où la bouteille?
Mais j'ai eu la chance d'en ouvrir quelques-unes et. Délibérément, même si on devait goûter à l'aveugle sans avoir aucune idée du prix, on voit tout de suite qu'on est face à un très grand vin avec beaucoup de profondeur, beaucoup d'élégance et une très grande concentration et une très belle longueur en bouche. Mais voilà, là où on goûte l'Angeline ce soir, il y a plus de fraîcheur, c'est plus délicat, mais c'est aussi un très joli vin avec une belle longueur en bouche et avec une expression aromatique assez large.
Avec quoi vous le buvez, ce côte rôtie, pour finir? Qu'est-ce qu'on mange avec ça? L'experte
filet
en accord, mais
fumé.
Filet de bœuf.
Filet de bœuf fumé, maturé, avec des petits légumes rôtis, tout simplement. Mais jolis morceaux de viande.
Pour les carnivores. C'est une bouteille qui t'a coûté dans les 30 euros, Patrice.
C'est ça,
dans une foire
et
au vin.
Ça reste, je trouve, c'est un très bon rapport qualité-prix. Et je pense que l'autre intérêt de côte rôtie, c'est que sur un monocépage, c'est un très bel équilibre. C'est-à-dire, c'est à la fois.
C'est un prix vraiment pas cher pour côte rôtie.
Pour le vin lui-même. Le vin lui-même est un bel équilibre. C'est-à-dire que c'est à la fois riche, complet, mais léger. Enfin, c'est un peu une expression. En tout cas, là, je trouve. Et on va arrêter de dire ça parce que mais un peu bourguignonne de la Syrah. Après, j'arrête.
le meilleur. Arrêtez avec ton truc bourguignon. Tout
ah, tu vois,
j'ai l'impression que c'est systématiquement le gage de qualité.
Alors, absolument
c'est bourguignon,
pas. Absolument pas, mais
c'est fantastique.
Beaucoup de critiques le disent comme ça, donc il faut que j'arrête. Mais c'est vrai que quand on n'est pas sur le boisé et qu'on est plutôt sur la légèreté et la fraîcheur, on dit bourguignon. Mais c'est un défaut. Ouais. C'est clair, c'est un défaut.
Intéressant, c'est le vocabulaire du vin. Hein. Peut-être que.
Oui.
Il y a 20 ans, on disait pas ça.
Ils n'ont pas bu beaucoup de chardonnay de Bourgogne, alors ceux qui considèrent que c'est bourguignon d'être léger et pas boisé.
Voilà, ah. Ça commence le mauvais esprit.
Hein. Ah ouais, là, dis donc, dis donc. Bon, merci à tous. On clôt ainsi sur ces belles paroles de Laurent. Ce premier épisode consacré au Rhône Nord, on va continuer avec une deuxième émission. Avec d'autres vins rouges, d'autres syrahs, d'autres expressions de ce cépage. Et pourquoi pas un autre vigneron au téléphone ou une vigneronne. Allez, merci à tous.
Merci,
à très bientôt. Salut, ciao.